Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver pour notre émission traditionnelle et habituelle de Canal 2, Ta parole et vérité. Nous allons continuer avec l'évangile de Jean. L'évangile de Jean qu'on a commencé déjà il y a quand même très longtemps. Et je me permets de faire à nouveau un petit récapitulatif. Alors c'est vrai que pour certains d'entre vous, ce sont des choses qu'on répète, mais on va faire brièvement, de voir grosso modo de Jean chapitre 1 jusqu'au chapitre 10 qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Jean 10, c'est la parabole du bon pasteur et des brebis, et des brebis qui suivent le bon berger, qui ne sont pas un bandit ni un voleur, qui passe par des endroits qui ne sont pas la porte, ce qu'on verra tout à l'heure. Mais avant ça, je vous rappelle donc l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, nous avons Jean 1, on en avait parlé, c'est le prologue. Dans Jean 1, on nous montre qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Hein? Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair, et le Verbe qui s'est fait chair devient Jésus-Christ qui vient sur terre. Et je vous appelle que Jésus-Christ est le Verbe. S'il est le Verbe, c'est qu'il est Dieu. Jean 1:1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. On verra tout à l'heure dans Jean chapitre 10, au verset 30, que les Juifs condamnent Jésus en disant, hein, « Tu te fais Dieu. Nous ne sommes pas d'accord avec toi parce que tu te fais Dieu. » Et de fait, le Verbe, Jésus, se fait Dieu et il a raison et les Juifs ont bien compris parce que réellement, il est Dieu. Jean 1:1, au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Jean 1:14, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Ça, c'est l'incarnation. Il est venu. Et Jean 1:18, personne n'a donné une révélation aussi belle que celle de Jésus. Jean 1:18, où on nous dit que personne n'a jamais pu nous parler de Dieu. Le seul qui peut nous parler de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est venu sur terre. Exactement, je vous lis, ça va être plus simple, c'est Jean chapitre 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de religion meilleure que celle que le Christ a apportée et qui nous dit la véritable vérité sur Dieu. Ça, c'est le prologue de Saint Jean, ce prologue qui est très, très intéressant. Ensuite, vous avez les premiers disciples, Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 2, je vous rappelle, c'est donc les noces de Cana. Noces de Cana, où Jésus-Christ va assister à un mariage. Et je vous rappelle que le véritable mariage, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Il est venu sur terre, il s'est fait homme, il a pris des yeux, une bouche, des dents et tout le reste. C'est pour pouvoir venir épouser l'humanité. Je vous rappelle Éphésiens chapitre 5, verset 32, où il est dit « L'homme quittera son père et sa mère pour que sa femme et les deux ne feront plus qu'un. » Il dit, Saint Paul dit « Ce mystère est grand, je dis du Christ et de l'Église. » Le grand mystère de l'amour, c'est l'amour de Dieu pour nous, et nous les hommes, nous devenons donc les épouses de Jésus. Je vous rappelle mon nom, Madame Jésus, je le pif mal, il me yamo, on est ensemble, lui et moi. Et c'est important, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Jean 3, il reprend cet homme qu'on appelle Nicodème, et en reprenant l'intelligence de Nicodème, il prêche la nouvelle naissance. Notre intelligence nous a été donnée pour comprendre que nous sommes sur terre pour devenir les époux de Jésus, les épouses de Jésus. Et donc, notre intelligence doit accepter de comprendre la raison pour laquelle tu es sur terre, et tu es sur terre pour toi, pour donner ta vie au Christ, donner sa vie à Jésus. Ça qu'on appelle la nouvelle naissance, le thème essentiel, capital, le thème le plus important de toutes les saintes écritures. Jean chapitre 4, après avoir repris l'intelligence de l'homme, il reprend le cœur de la femme. Et le cœur de la femme, c'est cette Samaritaine. Cette Samaritaine qui, je vous rappelle, hein, va chercher ton mari, je n'ai pas de mari. Tu as raison, tu as eu 5, et celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. Et on voit comment donc Jésus-Christ nous montre, lui en venant sur terre, son plan, c'est qu'on puisse devenir son épouse, et vivre une relation amoureuse vraie avec Jésus, parce que le meilleur de tous mes amis, c'est Jésus lui-même. Ensuite, il reprend l'intelligence de l'homme, il reprend le cœur de la Samaritaine, cette Samaritaine qui n'aime plus, et lui dit que si tu veux comprendre comment épanouir ton cœur, il faut revenir à l'adoration. Hein? Je vous rappelle Jean chapitre 4, verset 24, où il est dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et on voit bien donc dans Jean 4, 24 que le cœur de la Samaritaine n'a pas été créé pour vivre un homme, deux hommes, trois hommes, un mari ou cinq hommes, tout ce que vous voulez. Il a été créé pour adorer Dieu et aimer Dieu. Et plus je vais aimer Dieu, plus je serai épanoui. Hein? Je vous rappelle qu'aucun homme sur terre ne peut épanouir mon cœur. Aucune femme sur terre ne pourra épanouir mon cœur. Ils peuvent m'aider à aimer. Il peut y avoir des vies de couple qui sont très belles. Et c'est beau de voir un homme et une femme qui sont fidèles et qui s'aiment et qui cheminent ensemble sur le chemin du véritable amour qui est la relation amoureuse avec Dieu. Ensuite, Jean chapitre 5. C'est la piscine de Bethsaida. C'est le corps de cet homme paralysé qui va être guéri. Et Jésus-Christ nous montre, hein, avec cette piscine de Bethsaida, comment il est venu, non pas premièrement pour guérir les gens. La preuve, c'est qu'à la piscine de Bethsaida, il y avait plein de gens autour de cette piscine. Ils sont très très nombreux, les infirmes, les boiteux, les malades, ils sont tous là. Ils attendent une seule chose, c'est que la piscine puisse bouillonner. Et une fois que la piscine bouillonne, la première personne qui entre et qui entre dans cette piscine sort guérie. Et là, on a un paralytique qui est paralysé depuis 38 ans. Plein d'autres personnes sont là autour. Et à chaque fois que la piscine bouillonne, comme il est bien paralysé, il ne peut pas entrer le premier dans l'eau. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres qui entrent avant lui. Et Jésus-Christ va venir et Jésus-Christ va le guérir. Les autres, il ne va pas les guérir. Il va guérir juste cet homme-là. Pour nous montrer que même notre corps doit nous aider à nous sanctifier. Jean 6, hein, je vous rappelle, il faut tous connaître par cœur Jean 6, 51 à 58. Où après la multiplication des pains, Jésus-Christ dit d'une manière claire et nette dans Jean 6, 51-58, « Je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Verset 52, les Juifs disent « Comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et les Juifs ont bien compris que Jésus-Christ a dit « Il y a un pain, je suis le pain, et le pain là, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et le pain qui est sa chair, pour nous tous aujourd'hui, je crois c'est clair, c'est la célébration de la scène. La sainte scène, le dernier repas que le Christ a célébré. Luc 22, 19, il prit du pain. « Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Il y a un pain qui est sa chair. Et lors de la messe, c'est bien du pain que nous prenons. Hein? Voici le pain, le vin, on bénit Dieu pour ça. Et il dit, ceci est mon corps, c'est son corps. Et le pain qu'il prend devient le corps du Christ. Et le pain, ce n'est pas uniquement une histoire de symbole. Je suis contre tous ceux qui aujourd'hui utilisent la Bible et utilisent la Bible en vous disant que le pain ne devient pas le corps du Christ, mais c'est uniquement symbolique. Mais ça n'a pas de sens, ce n'est pas biblique et ce n'est pas intelligent, ça ne respecte pas les Saintes Écritures. Ce passage de Jean 6, 51-58 est clair. « Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs disent, verset 52, « Comment cet homme-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» La question est claire. Les Juifs ont compris que Jésus-Christ dit qu'il faut manger sa chair. Et au verset 53, Jésus-Christ ne s'excuse pas. Il dit pas « Non, excusez-moi, comme vous voyez, c'est uniquement un symbole, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Non. Jean 6, 53, « Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. » Il dit bien « Celui qui ne mange pas ma chair, il faut bien manger sa chair, c'est pas moi, c'est lui. » Alors que vous ne compreniez pas cette parole, c'est autre chose. Mais vous ne pouvez pas diminuer la parole que le Christ a dit. Nous avons la foi en la parole de Dieu. Et cette parole est claire. Donc, Jean 6, 53, « Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. » 54, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » 55, « Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. » C'est quand même clair et Jésus-Christ martèle d'une manière claire et nette pour nous faire comprendre ce qu'est le mystère de l'Eucharistie. Et il continuera même encore au verset qui suivra au verset 58. Jésus-Christ, dans ce passage de Jean 6, 51-58, dit deux fois « Celui qui mange ma chair a la vie éternelle » et dit quatre fois « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Je dis ça pour répondre à tous ceux qui de temps en temps se posent des questions en disant « Pourquoi dans l'Église catholique, le prêtre prend la communion au corps et au sang du Christ ? » Il dit même « Prenez et buvez-en tous et il boit seul ». Parce que ce passage de Jean 6, 51-58 nous permet de manger soit le corps et le sang du Christ. Ça respecte les Saintes Écritures. Jean 7, c'est un passage un peu plus compliqué avec beaucoup de choses dedans, donc on a du mal à le définir. Jean 8, c'est la femme adultère. Vous vous rappelez cette histoire, hein, on l'avait commenté. Hein. La femme adultère, c'est très joli. Et la femme adultère, c'est pour nous montrer, vous voyez, que quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos péchés, Dieu est un Dieu miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu pour cette femme est très belle et très grande. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire que les gens étaient là, au moment où elle était à l'acte avec un monsieur. Comme par hasard, le monsieur, je ne sais pas s'il était très fort, mais lui, il a fui, il a piaque, il est parti, il n'est plus là. Mais elle, la femme, on l'a attrapé. Et la femme sait, c'est la tradition juive, cette femme sait que prise en flagrant délit d'adultère, elle sera lapidée. Elle sait qu'à partir du moment où les juifs l'amènent là-bas au niveau du temple, les grands prêtres vont décider, il y a des endroits où il y a même des tas de cailloux qui sont là, et les cailloux sont là pour lapider. Dans Jean 10 tout à l'heure, on verra comment les gens vont vouloir prendre des cailloux pour lapider Jésus. Et c'est une chose qui était vécue chez les Juifs. Et une femme prise en flagrant délit d'adultère sait qu'elle sera lapidée. Elle sait qu'une fois qu'on l'a arrachée de sa maison, elle ne retournera plus chez elle parce que les pierres vont tomber sur sa tête et sur son corps jusqu'à la tuer. Et c'est ce que Dieu avait demandé dans l'Ancienne Alliance. Et c'est ce que respectaient les Juifs. Et cette femme sait que maintenant qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère, le Sanhédrin, les grands prêtres et tout ça vont la condamner et qu'elle est condamnée à mort. Elle va mourir. Elle n'en a plus que pour quelques heures. Et au moment où on va apporter cette femme à Jésus, Jésus-Christ va dire d'une manière claire et nette que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et on dit qu'il commence à partir et c'est les plus vieux qui partent les premiers parce que les plus vieux ont plus péché que les plus jeunes. Et on voit comment ces hommes et ces femmes qui sont là et qui veulent lapider cette femme adultère vont commencer à repartir les uns après les autres. Ils commencent à faire demi-tour. Au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup de monde. Et même les derniers qui sont là font demi-tour. Et après, Jésus-Christ demande à cette femme, « Qui t'a condamné ?»« Personne, Seigneur. » Et Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Parce que Jésus lui-même pouvait jeter la première pierre à cette femme. Parce que Jésus-Christ, lui, il est sans péché. Mais Jésus-Christ dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne péche plus. » Et que ce soit valable pour nous tous. Comprenons que dans notre vie, nous avons des difficultés, c'est clair, mais quelles que soient nos difficultés, nous devons sortir des situations de péché qui sont les nôtres. Et une chose qui est sûre, ce n'est pas Jésus-Christ qui va te condamner. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va te dire que non, tu es mauvais. Non, Jésus-Christ, il est miséricordieux. Ça veut dire que quand il te voit vivre une situation qui n'est pas conforme à sa volonté, il n'est pas là pour te condamner. Celui qui te condamne, il s'appelle Satan. Il y en a un et un seul. Et tous ceux qui te condamnent avec Satan sont des gens qui sont proches de Satan quelque part. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à condamner nos frères avec notre bouche. Nous devons, comme Jésus-Christ, être miséricordieux. Et Jésus-Christ miséricordieux, ça veut dire que le jour où tu tombes, il est là pour te dire que mon frère, ne reste pas là où tu es tombé. Lève-toi et marche. C'est moi ton Dieu. Je suis venu pour te sauver et te délivrer de l'esclavage du péché. Le péché n'est pas bon. Le péché que tu commets détruit ta vie. Il y a un poison mortel qu'on appelle même le péché mortel. On ne peut pas être heureux de voir une personne qui commence à détruire sa vie avec des poisons. Et Jésus-Christ ne veut pas que tu détruises cette vie qu'il t'a donnée avec les poisons du péché. Et chacun d'entre nous comprenons cette miséricorde de Dieu pour nous. Va et désormais ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Jean 9, l'aveugle-né. Très jolie cette histoire de l'aveugle-né. Hein, je vous invite à relire de temps en temps ce passage de Jean 9. C'est magnifique de voir comment on a cet homme qui est né aveugle. Et Jésus-Christ va lui ouvrir les yeux. Et ses parents ne vont pas vouloir intervenir parce qu'ils ont peur qu'on les chasse de la synagogue. Les Juifs vont demander plusieurs fois à ce jeune garçon, qui t'a ouvert les yeux, ça s'est passé comment? Et au bout d'un moment, le jeune garçon dit, je vous ai déjà dit, hein, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez maintenant vous convertir et devenir ses disciples. Avant de dire que tu es un pécheur, tu es un fautif, fous le camp, pars-toi. Et Jésus-Christ montre bien, avec l'histoire de l'aveugle né, que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et Jésus-Christ, lumière du monde, il le dit dans Jean chapitre 8, je crois que c'est le verset 12. Il le dit aussi dans Jean chapitre 9, le verset 5, parce que Jésus-Christ est bien la lumière. Lumière sur ma vie affective, sensuelle, lumière sur toute ma vie, en étant celui qui doit éclairer tout ce que je dois poser comme acte. Et Jésus-Christ fait comprendre aux gens, à la fin, dans les versets 40 et des poussières, où il leur dit que je suis venu pour un jugement, afin que ceux qui voient deviennent aveugles, et que ceux qui ne voient pas, voient. C'est parce que Jésus-Christ est venu nous apporter une lumière. On a vu Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et Jésus-Christ vient nous révéler la vraie lumière sur Dieu, sur l'homme, sur l'univers, sur le monde, sur le salut. Et c'est cette véritable lumière, il nous la donne à nous les hommes. Et c'est pour ça qu'il dit que vous qui ne voyez pas, si tu reconnais que tu n'as pas la vraie lumière qui est la mienne, celle que moi, Dieu, je viens t'apporter, toi qui ne voyais pas, je suis venu pour que tu vois et que tu aies aujourd'hui la lumière dans ta vie. Et il dira aux autres, vous qui voyez, vous qui savez que moi, je n'ai rien à vous apporter, vous qui refusez la lumière de Dieu dans votre vie, là, et je ne peux rien pour vous, vous, alors, vous êtes aveugles. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Après ce passage de Jean 9, on arrive dans Jean 10, ce qu'on va étudier aujourd'hui, Jean chapitre 10, donc ce passage qui nous parle de bon pasteur. Alors je vous lis, Jean chapitre 10, le bon pasteur qui connaît ses brebis le connaissent, les bandits et les voleurs qui passent par dessus le mur. Jean chapitre 10, en vérité, je vous le dis, Celui qui passe par-dessus le mur du parc à brebis, au lieu d'entrer par la porte, c'est un voleur et un bandit. Donc, Jean 10, 1. Premier verset de Jean 10. En vérité, je vous le dis. Phrase solennelle de Jésus. En vérité, je te le dis. Celui qui passe par-dessus le mur du parc à brebis, au lieu d'entrer par la porte, c'est un voleur et un bandit. Et il est clair que normalement, à partir du moment où quelqu'un escalade un mur pour entrer dans une concession ou quelque part, c'est que ce n'est pas le propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, lui, il entre par la porte. Donc, verset simple, Jean 10, 1. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis reconnaissent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et il les fait sortir. Et on voit que les brebis connaissent sa voix. Il y a un lien affectif entre ce berger et sa brebis. Il y a une relation amoureuse entre ce berger et cette brebis. Quand il fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Si c'est un autre, elles ne vont pas le suivre. Bien mieux, elles s'enfuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Et donc, le bon berger va se faire reconnaître de sa brebis par sa voix. C'est la voix du bon berger qui permet à la brebis de savoir si c'est vraiment lui le bon berger ou pas le bon berger. Celui qui n'est pas le bon berger, lui, il passe par le mur. Il est voleur et bandit. Essayons maintenant de réfléchir. Que veut dire ces premiers versets de Jean chapitre 10, versets 1 à 5? On nous propose d'un côté un berger et face à ce berger, un voleur et un bandit. Comment discerner aujourd'hui ceux qui sont le berger et ceux qui sont les bandits et les voleurs? Le voleur, c'est quelqu'un qui est venu pour voler. Ce voleur-là qui va entrer dans la bergerie, c'est pour voler quoi? Voler des brebis. Est-ce qu'on peut voler des brebis au berger? Et voler des brebis au berger, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que toute brebis qui va commencer à se détourner du berger est une brebis qui doit se poser des questions. Alors il est clair qu'en premier lieu, on peut penser là à tous ceux qui ne sont pas le bon berger, sont tous ceux qui enseignent une doctrine qui est une doctrine qui n'est pas la doctrine du Christ. Parmi ces gens, vous avez par exemple, disons la première épître de Jean. Dans la première épître de Jean, il y a un passage où on parle au chapitre 4 des antichrists. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, premier discernement à avoir, c'est un discernement par rapport à ceux qui vont s'opposer à la doctrine du bon berger. La doctrine du bon berger, c'est celle que Jésus-Christ lui-même donne, Jésus-Christ étant lui-même le Fils de Dieu qui est Dieu. Et à partir du moment où vous commencez à suivre un berger qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un faux berger. Et ce faux berger va essayer de voler les brebis du vrai berger qui est Jésus. Et il faut donc qu'on soit capable de discerner. Premier épître de Jean, chapitre 4 est clair. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Premier discernement, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est Dieu vient du bon berger. Toute personne qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ce n'est plus le bon berger. Alors, on peut voir différentes dénominations, différentes religions, différentes tout ce que vous voulez. Cherchez comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Mais c'est important de comprendre ce premier discernement que Saint Jean lui-même nous donne dans sa première épître. Et je vous rappelle que Jean, c'est aussi l'évangile de Jean, chapitre 10. Et c'est important de pouvoir éprouver pour essayer de savoir quels sont les bons esprits et les mauvais esprits. Maintenant, par son premier évangile, dans Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, je vous lis à partir du verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ce verset est fort, Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, c'est la loi et les prophètes. On ne dit pas qu'il faut que les gens fassent ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Il dit que toi, même si on ne fait pas ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, toi fais ce que tu dois faire. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi. Entrez par la porte étroite. On est le bon pasteur, les brebis, il y a la porte. Et le berger passe par la porte. Entrez par la porte étroite, car là j'ai la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors, il est clair que quand j'écoute ce passage, je ne peux pas ne pas faire allusion à toutes ces nouvelles églises aujourd'hui dans lesquelles il y a un discours qui peut être un discours très chrétien, même s'il n'est pas complètement chrétien, mais très chrétien, dans lequel on critique sans arrêt la religiosité en pensant forcément aux églises catholiques et aux églises protestantes. En disant que entrer par la porte étroite c'est une petite église où il y a 300 personnes qui se réunissent. La porte large c'est l'église catholique qui a 1,2 milliard de fidèles. Ça n'a pas de sens d'interpréter cela comme ça. Et si dans ton église, toi, un jour, tu as 1,2 milliard de fidèles, ça veut dire que ton église va devenir mauvaise? Jamais. Et ce n'est pas la quantité de personnes, là. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Si tu veux être sauvé, il faut accepter l'évangile de Jésus-Christ et sa parole. Et sa parole et son évangile est quelque chose qui est quand même pas si facile que ça à vivre. Encore que moi, personnellement, je pense qu'il est plus facile de vivre l'évangile de Jésus-Christ que de vivre dans la débauche. Quelqu'un qui vit l'évangile, c'est quelqu'un qui vit le bonheur. Il a la joie dans le cœur. Et il n'y a rien de plus heureux et de plus épanouissant que de mettre en pratique l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la porte, si elle est difficile, parce que le chemin, ben, ce n'est pas facile, il faut vivre l'évangile, ce n'est pas toujours, hein, c'est clair. Être fidèle à un homme pendant 40 ans, être fidèle à une femme dans une vie conjugale pendant 40 ans, ce n'est pas facile. Il y a des belles femmes qui sont dehors. Il y a toutes les tentations qui peuvent exister. Mais en même temps, ces tentations, quand on y succombe, ne sont pas notre bonheur et ce ne sera jamais le bonheur de l'homme. Et l'homme est inscrit au plus intime de son cœur. Entrer par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. On revient toujours. Jésus-Christ est le vrai prophète qui enseigne la doctrine du Christ. Vrai prophète et plus grand que tous les prophètes, puisque c'est même le prophète qui est en même temps le Fils de Dieu qui est Dieu. Il n'y a pas de prophète plus important et plus grand que Jésus-Christ lui-même. Mais à côté de lui, autour de lui, il y a des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et voici le premier discernement par rapport aux faux prophètes et aux vrais prophètes. Et Jésus-Christ ne fait pas un discernement premièrement par rapport à la doctrine. Il fait un discernement par rapport à la manière de vivre. Et il dit que c'est aux actes qu'ils vont poser que tu les reconnaîtras. Tu reconnaîtras un bon berger d'un mauvais berger aux actes qu'il pose. Donc, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Je suis maintenant au verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et Jésus-Christ montre qu'on ne va pas reconnaître un véritable prophète aux miracles, aux guérisons et à chasser les démons. C'est toujours le même contexte, je vous rappelle, Matthieu 7, 15, gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, 21, quiconque dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Seigneur, Seigneur, ça ne veut pas dire que forcément c'est le bon berger. Hein? Premier épître de Jean, chapitre 4, discerner les esprits. Tu vas chez un marabout, il jette les coris, il jette des choses pareilles. Comme il a une crucifix et une statue de la Vierge Marie, tu vas dire que c'est un bon gars. Mais ça n'a pas de sens. Pas parce qu'il y a une statue de Marie que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est réglo. Donc, je continue. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? On avait déjà parlé de ce texte, mais je crois qu'aujourd'hui c'est important pour nous, pour discerner le bon berger de tous ceux qui ne sont pas des bons bergers. Vous avez des chaînes de télévision aujourd'hui où on vous parle de, justement de prophétie. Chaque jour, on vous dit période de prophétie. On prophétise, on annonce que prophétie, prophétie, prophétie. Ensuite, vous voyez comment on chasse les démons. Je vous rappelle, jusqu'à pour moi une énormité que je trouve aberrante, donner le micro à quelqu'un qui est possédé pour que le démon puisse parler dans ton micro. Pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Je tiens à vous dire une chose. Moi, Père et Marie, je chasse les démons. Hein. Et les prêtres catholiques, la chasse les démons même dans vos paroisses, hein, que les choses soient claires. Mais la seule chose, c'est nous, quelque part, on est discret. Et puis, dans notre Église, nous savons que celui qui chasse les démons, c'est celui qui est nommé officiellement par l'évêque du diocèse. Et dans le diocèse, l'évêque est habilité, selon le droit canon, le droit de l'Église, à nommer un exorciste. Et l'exorciste qu'il nomme est nommé hein, par décret de l'évêque du lieu. Il peut très bien ne pas nommer ce qu'il veut. Et s'il n'en nomme pas, c'est que c'est lui l'exorciste du diocèse. Donc alors, à partir du moment où il nomme, on nomme un exorciste parmi des prêtres. En général, vieux, parce qu'il faut qu'ils soient sages, qu'ils aient une bonne expérience. Des gens qui prient et qui soient humbles. Et la raison, c'est laquelle? C'est parce que sinon, on va arriver à toutes les aberrations qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde se lance dans chasser les démons. Et tout le monde s'amuse à chasser les démons n'importe comment. Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui, en chassant les démons, s'amusent avec les démons et les démons s'amusent même avec eux. Un démon peut te faire croire n'importe quoi. Tu peux très bien, en chassant les démons, commencer toi-même à écouter ce démon qui te fait comprendre que toi-même, tu es très fort. Moi, il m'est arrivé à l'époque de mon ancien où je priais sur des gens qui étaient possédés. Quand je priais sur les gens possédés, le démon te dit « Mon père, toi tu es fort. Le père Gala, il ne fait rien. C'est un enfant. Toi tu es puissant. »